La capsule.
Allô.
Le coup de fil à un ami.
Allô.
Au signal, veuillez dicter votre message.
Oui, bonjour. J'ai entendu dire que le soleil allait briller plus fort dans les années à venir et que ça pourrait être dangereux pour les astronautes. C'est quoi cette histoire?
Celui qui sait, c'est François Spiro, responsable des vols habités au CNES.
Allô,
François, est-ce que tu peux nous expliquer les dangers que vont courir les astronautes avec l'augmentation de l'activité solaire dans les années à venir?
Le Soleil, il a un cycle avec des périodes de minimum et des périodes de maximum d'activité solaire. Et effectivement, on a atteint il n'y a pas très longtemps un minimum. Et donc, il est de nouveau maintenant sur une phase ascendante. Et dans les prochaines années, il devrait connaître une activité plus forte, ce qui signifie donc en particulier des rayonnements plus forts et donc un impact sur les astronautes de la station.
Mais qu'est-ce qui est si dangereux dans les radiations solaires ?
Donc le Soleil, comme toute étoile, génère des rayonnements dans différentes longueurs d'onde, avec différentes intensités. Et certains de ces rayonnements sont très nocifs. On n'a pas besoin d'être dans l'espace pour le savoir, puisque même sur Terre, quand on s'expose longtemps au soleil, eh bien la peau peut être abîmée, peut être endommagée. Eh bien c'est encore pire pour les astronautes, puisqu'ils n'ont pas la couche de protection de l'atmosphère.
Existe-t-il des systèmes de mesure de ces radiations ?
Les astronautes ont sur eux ce qu'on appelle des dosimètres, c'est-à-dire des petits appareils électroniques qui mesurent en permanence la radiation qu'ils absorbent. Et si les doses de radiation sont trop importantes, eh bien on prend des mesures particulières.
Comment les astronautes de la Station Spatiale Internationale sont-ils protégés contre ces radiations ?
On a conçu la station pour que le fuselage autour de la station les protège le plus possible. Et puis bien sûr, lorsqu'ils sortent de la station, ils ont des scaphandres, ils ont des combinaisons, également avec des matériaux tout à fait appropriés pour les protéger.
On parle aujourd'hui d'envoyer l'homme sur Mars. Comment les astronautes pourront-ils faire face à ces radiations sur des voyages aussi longs ?
Qui dit homme sur la Lune ou homme sur Mars dit des voyages de longue durée, dit un passage au-delà des ceintures de protection, les fameuses ceintures de Van Allen, et donc les bombardements de rayonnement cosmique sont beaucoup plus intenses, et donc ces radiations peuvent causer des dommages assez significatifs. Donc les agences spatiales travaillent sur des vaisseaux, je dirais avec des renforcements de structures qui arrêtent autant que faire se peut les radiations, et également sur des scaphandres renforcés pour lorsque les astronautes débarquent. Je rappelle que les astronautes qui ont été sur la Lune il y a une quarantaine d'années n'y sont restés que très peu de temps, quelques heures, et qu'en conséquence les rayonnements qu'ils ont connus étaient au total relativement faibles. Les projets actuels de retour de l'homme sur la Lune ou de l'homme vers Mars s'inscrivent dans des périodes beaucoup plus longues et donc potentiellement beaucoup plus dangereuses.
Merci François Spiro.
Ah merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens.
Injection. 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 L'espace, c'est sans doute le dernier endroit où il faut se rendre si on aspire au repos absolu. Tout ce qui y est placé se trouve en effet soit en orbite autour d'un corps plus massif, soit condamné à gagner perpétuellement en vitesse. L'objectif étant de s'arracher aux dépendances gravitationnelles successives de corps de plus en plus grands. Le moment crucial de ces changements d'orbite, où se joue le destin des missions spatiales, s'appelle l'injection. C'est en effet à cet instant-là que, telle une molécule placée dans une seringue et poussée par un piston, le satellite ou le vaisseau spatial reçoit un apport d'énergie qui le place sur une nouvelle trajectoire pour une nouvelle destination. Ainsi, lorsque la fusée Ariane libère ses passagers dans l'espace, elle les injecte sur une trajectoire qui, la plupart du temps, les amène à frôler l'orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude. Une fois là-haut, et avant de redescendre vers la Terre, les satellites n'ont plus qu'à allumer leur propre moteur afin de circulariser leur orbite, c'est-à-dire ramener le point le plus bas de l'orbite au niveau du point le plus haut. Parfois, la mission est plus complexe et c'est toute une série d'orbites, et donc d'injections, que le satellite doit subir pour rejoindre sa destination finale. C'est particulièrement vrai pour les missions d'exploration du système solaire. Il faut d'abord vaincre l'attraction terrestre, puis se placer sur une trajectoire frôlant l'orbite de la planète visée, et enfin freiner les cas de fer afin de se laisser capturer par sa gravité et s'y placer en orbite. Pour les satellites, ces injections successives, c'est un peu comme une ordonnance dont il faudrait suivre à la lettre les prescriptions. De véritables injonctions.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Quelques pas sur Mars. Nous avions les yeux accrochés à l'ATV pour nous émerveiller de la précision avec laquelle le véhicule automatique de transport de l'Agence spatiale européenne a rejoint la Station spatiale internationale. Pendant ce temps, trois humains étaient en train de poser le pied sur Mars, ou plutôt sur une réplique de Mars. Cela se passait le 14 février dernier dans la banlieue de Moscou. Embarqué le 3 juin 2010 à bord d'un module bien arrimé au sol terrestre, progressivement isolé du reste du monde, les 6 hommes d'équipage, 3 Russes, 2 Européens et 1 Chinois, ont donc simulé le long voyage jusqu'à la planète rouge. 3 d'entre eux s'y sont même posés. Ils sont repartis ce 10 mars pour la Terre, où ils devraient arriver le 5 novembre prochain. Au total, plus de 500 jours dans un espace virtuel afin de préparer un vrai voyage vers Mars, mais pas avant 20 ans. Mars, la petite sœur de la Terre, continue donc à nous faire rêver, à stimuler nos imaginations d'ingénieurs et nos enthousiasmes d'explorateurs, notre passion pour l'inconnu et notre envie de savoir. Certes, depuis 1977 et l'incroyable succès des missions américaines Viking, nous avons posé le pied sur Mars. Nous avons jeté un œil sur ces étendues rocheuses, mais ce ne sont encore que ceux de nos robots. Nous nous sommes déplacés à sa surface, nous en avons gratté le sol, mais seulement en pilotant à distance des outils sophistiqués. Aucun humain n'a encore éprouvé la pesanteur martienne qui lui fera trouver léger le lourd scaphandre de 32 kg qu'ont dû revêtir les hommes de Moscou. Aucun humain n'a dû rabattre sa visière d'or pour protéger ses yeux des rayons d'un soleil émergeant d'une colline rouge. Mars n'est encore qu'un jouet pour notre imagination, un objet pour nos rêves. Et très honnêtement, personne ne peut dire aujourd'hui s'ils se réaliseront un jour. Mais si, en attendant, nous prenions le soin d'interroger ceux qui sont sur le chemin du retour vers nous, après avoir posé le pied sur une planète Mars virtuelle. Ce long voyage immobile, parfois aux limites d'eux-mêmes et du groupe qu'ils constituent, n'aura-t-il pas fait d'eux sinon des martiens, du moins des terriens un peu différents ? Je ne doute pas un instant qu'ils auront franchi au cours de cette mission un grand pas dans leur propre existence d'homme et peut-être même un petit pas pour notre humanité. Rien de tel en effet qu'un tour dans le cosmos, même virtuel, même factice, pour découvrir des facettes inconnues de nos personnalités, de nos cultures, de notre espèce humaine. Ces hommes sauront-ils nous partager cette expérience? Saurons-nous les écouter? De quoi faire réfléchir en ce mois de mars?
Allons-y. La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre?
C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le
Daniel
terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
oui,
tout.
Non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui.
Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Ce serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre ? C'est qui a les clés ?
Allez, à la prochaine.